Donc merci Pierre pour ton invitation, merci Romain aussi. Comme tu viens de le dire, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est issu de mon travail de thèse. Il s'agira plus précisément d'un parcours de réflexion élaboré autour de l'une des notions qui ont émergé de ce travail de thèse, l'une des notions qui se sont imposées comme des nœuds problématiques de la pensée politique des Florentins des XIVe et XVe siècles. J'ai nommé le guelphisme, dont je constate avec plaisir qu'il intéresse encore nombre de personnes au vu du large public ici présent, que je remercie d'avance pour son attention et pour les remarques qu'il pourra me faire à l'issue de cette présentation du destin du guelphisme dans les livres de famille florentins au XIVe et au XVe siècle. O mai puoi giudicar di quei cotali che io accusai di sopra e di lor falli, che son cagion di tutti i vostri mali. L'uno al pubblico segno i gili gialli oppone, e l'altro a propria quello a parte, sicché forte a veder chi più si falli. Faccian li ghibellin, faccian lor arte, sott'altro segno, che mal segue quello, sempre chi la giustizia e lui di parte. E non l'abbatta sto gallo novello coi guelfi suoi, ma tema degli artigli che più alto leon traser l'ovello. Ces vers de Dante, tout comme les mots de Dino Compagni, qui choisit de débuter sa chronique des événements de son temps en remontant ai danni antica origine delle discordie civili in Firenze tra Guelfi e Ghibellini, ont contribué à enraciner ces deux factions dans l'imaginaire collectif des italianistes comme des médiévistes. Dès que l'on traite du XIIIe ou du XIVe siècle, italien en général et florentin en particulier, Guelfes et Ghibellin s'imposent comme des figures imposées. Je ne fus donc pas particulièrement surprise de voir émerger ces termes dans les récits consacrés à la vie de la cité que contenaient les livres de famille que j'ai étudiés pour ma thèse. Alors, ces livres sont des écrits privés rédigés par les chefs de famille à destination de leurs descendants et voués à transmettre de génération en génération ce qu'ils estimaient bon et utile à leur famille. Ce bene et utile s'entend comme tout ce qui pouvait les aider à conserver et augmenter le statut de leur famille dans la cité, tant du point de vue économique que politique et social. Or, parmi ces éléments bons et utiles, on trouve des notations comptables, des inventaires de patrimoine immobilier, des listes de naissances, de mariages, de décès advenus dans la famille, des recettes médicinales, mais aussi des passages historico-politiques. Ce sont ces passages que j'ai étudiés dans ma thèse, dans l'espoir de mieux cerner les représentations que les Florentins avaient de leur cité et de leur place en son sein. J'ai notamment, pour ce faire, comparé les récits des principaux événements que l'on trouve dans ces livres, ce qui a permis de faire émerger un certain nombre de notions qui fonctionnaient comme des clés de lecture largement employées par les Florentins pour raconter l'histoire à leurs descendants. Vous l'aurez probablement deviné, Guelfes et Ghibellin comptent au nombre de ces notions qui ont émergé. Or, la définition de ces termes comme des idéologies qu'ils sont supposés avoir portées est épineuse au point d'avoir généré des interrogations jusque chez les contemporains. Dino Compagni, dans le chapitre que j'ai cité, précise ainsi que les deux factions qui naquirent en 1215 du conflit entre les familles Buondelmonti et Amidei, selon lui, se dotèrent de deux noms nouveaux, Guelfes et Ghibellin. Mais s'il relate en détail la rupture d'alliance matrimoniale supposée avoir été à l'origine du conflit, il ne dit rien de plus sur ce nom et passe rapidement à autre chose en arguant que son intention, je le cite, « n'est pas d'écrire les choses du passé parce que la vérité ne peut y être retrouvée », mais qu'il a néanmoins écrit ce début afin de donner accès à la compréhension des origines à Florence de ces maudits partis des Guelfes et des Ghibellins. La centralité de cette question pour Compagni est donc visible, puisqu'il ressent le besoin d'en faire la prémisse historique de son discours, mais nous n'en savons pas beaucoup plus à l'issue de ce bref récit sur la raison qui a pu pousser les Florentins à choisir ces termes-là comme étendard et le sens qu'ils leur attribuaient. Guelph et Gibelin se présentent donc d'emblée comme des termes non transparents. Les chercheurs n'ont d'ailleurs pas manqué de souligner la complexité et la plasticité de ces notions qui seraient de véritables forteresses capables de traverser les siècles dans l'imaginaire collectif de la péninsule tout en résistant aux assauts de ceux qui chercheraient à en pénétrer le sens. À ce propos, Marco Gentile affirme d'ailleurs que la storiografia traditionnellement tende a considerare i Guelfi Ghibellini come privi di qualsivoglia consistenza ontologica. Puri flatus vocis, essi non esistono se non come etichette disponibili a designare qualsiasi gruppo di pressione locale. Donc, paradoxalement, la longévité des termes Guelfes et Gibelins reposerait sur le fait qu'ils seraient dépourvus d'un sens propre et véritable. C'est une idée que Gentile et d'autres se sont attachés à démonter dans le volume qu'il a dirigé en 2005, en étudiant le devenir de ces factions dans la péninsule italienne, et en particulier dans les communes du nord et un petit peu du centre, sans toutefois s'intéresser beaucoup à Florence, en réaction peut-être aux contributions précédentes sur le guelphisme, qui s'étaient presque exclusivement focalisées sur Florence. Je vais à mon tour tenter de vous démontrer que ces termes ne sauraient être considérés comme creux, en m'attachant à leurs usages dans les livres de famille florentins. Un premier coup d'œil statistique à la fréquence d'emploi de ces termes au fil du temps, qu'on peut voir sur ce schéma, je sais pas si on voit bien les années, c'est peut-être un peu petit, bon, montre d'emblée que les moments où ces termes étaient le plus employés par nos auteurs ne correspondent pas aux décennies qui sont généralement associées aux luttes entre Guelfes et Gibelins, c'est-à-dire du début du XIIIe siècle jusqu'à 1267, ni au moment non plus où il s'agissait de luttes entre des Guelfes noirs et des Guelfes blancs, qui se sont prolongées jusqu'en 1313 environ. Donc si ces termes dans le corpus apparaissent dès le tout premier livre de famille qui nous soit parvenu, en 1260, ils ne sont en effet présents que de façon sporadique, jusque dans les années 1360, où ils connaissent en termes de fréquence ce que l'on pourrait appeler leur âge d'or jusqu'à l'orée du XVe siècle. Ensuite, les fréquences de ces termes se font, les occurrences sont de moins en moins nombreuses, jusqu'à disparaître progressivement à partir des années 1430. Sachant par ailleurs que le principe qui déterminait l'entrée ou non d'une information, quelle qu'elle soit dans le livre de famille, était son utilité dans le cadre de la stratégie familiale. Quand j'ai constaté cela, ces occurrences, j'étais non seulement tentée de remettre en question la théorie de la vacuité sémantique de ces termes, mais je me demandais aussi ce qui pouvait bien expliquer ces différentes phases d'actualité du guelphisme. Ce sont les résultats de mes réflexions à ce sujet que j'aimerais vous présenter maintenant en suivant le parcours de ces termes, en suivant leurs traces au fil du temps dans le corpus des livres de famille. Donc je vais commencer par m'attacher aux guelfes des origines et notamment à l'émergence des factions guelfes et gibelines en Italie. Donc historiquement, depuis... Alors là, on a trouvé ce qu'il voulait dire. Les termes guelfes et gibelins renverraient à la querelle pour la domination du Saint-Empire romain germanique qui opposa au début du XIIe siècle les Welfs, viendrait guelfes, donc les Welfs ducs de Bavière aux Hohenstaufen, ducs de Souabe et seigneurs du château de Waiblingen, d'où viendrait le terme donc de gibelin. Conrad III de Hohenstaufen étant devenu empereur en 1138, les partisans des Guelfes devinrent de fait ennemis de l'empereur. Ces termes auraient ensuite été importés en Italie, car à la même époque, de nombreuses communes cherchaient à s'affranchir de la tutelle impériale et ou ecclésiastique pour se développer de façon autonome. Sauf que, comme l'a remarqué Robert Davidson, les premières occurrences de ces termes dans les documents italiens datent des années 1240, soit un siècle après, et ne font absolument pas référence à la situation allemande, mais bien aux luttes entre factions florentines et toscanes, et ce, y compris quand on trouve ces occurrences sous la plume d'un certain Frédéric II de Hohenstaufen ou du pape. Dans les décennies qui suivirent, ces termes furent de plus en plus employés dans la péninsule, mais toujours dans l'optique de désigner les partes, ces factions qui structuraient la vie communale. Les notions de guelfes et de gibelins semblent donc avoir été liées dès l'origine à la question de l'organisation de la conflictualité au sein de la société communale, que ce conflit prenne place à l'intérieur ou à l'extérieur des murs de la cité. À l'époque, ces conflits étaient nombreux, car les communes cherchaient, je vous l'ai dit, à consolider leur pouvoir en étendant leur domination sur les territoires environnants. Dans la mesure où ces terres étaient souvent à l'origine des fiefs impériaux ou bien des bénéfices ecclésiastiques, cela donnait lieu à des conflits qui impliquaient aussi directement des familles du cru, car c'était à ces familles locales que les autorités impériales ou ecclésiastiques avaient confié la gestion de leurs terres. En 1220 et 1250, la situation devint encore plus tendue et complexe, car l'empereur Frédéric II intervint directement dans les affaires de la péninsule. En 1220, par exemple, à l'occasion de son couronnement, il fit de généreuses concessions à ses alliés toscanes, en l'occurrence Pise et Sienne, au détriment de Florence, qui était alors en guerre avec Pise, suite à un désaccord sur les frontières de leurs territoires respectifs, ce qui contribua à faire pencher la balance florentine du côté du parti guelf, tandis que Pise et Sienne demeuraient étroitement liés au parti gibelin. Dans les années 1240, les tensions s'exacerbèrent encore davantage, y compris au sein de la commune florentine, car tandis que certains étaient avides d'étendre leur patrimoine au détriment de celui de l'Église, d'autres étaient au contraire excédés par la présence de représentants impériaux en Toscane et par leurs requêtes en matière de troupes et de soutien financier. Donc tout cela pour souligner que même quand les familles de l'élite florentine n'avaient pas déjà des liens avec le pape ou l'empereur en fonction de leurs intérêts dans la cité ou dans le comtado, elles avaient tout intérêt à choisir leur camp afin d'obtenir de l'un ce que l'autre leur refusait. Cela déboucha sur les violences citadines entre clans familiaux que les textes de l'époque ont rendu célèbres, que ce soit Dante ou Compagnie ou bien d'autres, ou Villani encore. Si l'on en revient aux extraits que j'ai cités de la chronique de Compagnie, on comprend mieux pourquoi le rapport entre ces conflits intra-citadins et les noms nouveaux de guelfes et de gibelins se passe de commentaires. À Florence, dès les origines, leur sens est étroitement lié aux intérêts propres aux différentes familles des élites communales. Le philo-impérialisme supposé des gibelins, tout comme le philo-papisme des guelfes, ne doivent donc pas être entendus comme des positions reposant sur des principes religieux ou sur des théories du bon gouvernement, mais surtout comme des positions issues d'un rapport de force et de conflits d'intérêts dans lesquels la dimension locale était cruciale. Ce qui n'enlève rien à l'épaisseur sémantique de ces termes, qui désignaient des factions bien réelles, dotées d'une identité propre et fortement antagoniste, ce que l'examen des premières occurrences de ces termes dans les livres de famille confirme. Les termes guelfes et gibelins servirent d'abord aux Florentins à lire le contexte géopolitique toscan. C'est ainsi qu'ils forment un couple inséparable dans les textes dès qu'il s'agit de traiter de la situation extérieure à Florence. On voit que les deux courbes se superposent quasiment parfaitement. L'usage de ces termes permettait aux Florentins d'identifier les puissances di fuori, les puissances extérieures, selon un schéma binaire. Un gouvernement était soit guelfe, soit gibelin, et en fonction de la couleur florentine, la couleur de Florence à la même époque, ce gouvernement était soit ami, soit ennemi. Ces termes servaient donc de marqueurs pour définir l'identité des acteurs politiques de l'époque. Guelf et ami, Gibelin ennemi, sans que d'autres termes ou concepts leur soient nécessairement associés. Cette fonction taxonomique de ce couple de termes antagonistes est également repérable dans des notations qui concernent ce qui se passe dans la cité. On peut d'ailleurs remarquer que ces termes sont bien davantage employés pour traiter de ce qui se passe dans la cité que ce qui se passe à l'extérieur, puisque la courbe ayant trait aux références au Guelf di dentro est beaucoup plus haute. Dans ce cadre aussi, ces termes servaient à lire le paysage politique florentin selon un schéma biparti, comme le montre cet extrait du livre de Neri degli Strinati, écrit en exil en 1312. « Estando io neri nella città di Padova con tutta mia famiglia, siccome uomo scacciato di Firenze, già è 10 anni passati sotto la cagione del perfido tiranno Messer Carlo, fratello del re di Francia, e per lo suo avvenimento che fece in Firenze, e per i perfidi guelfi negri, molti altri ghibellini e guelfi bianchi grandi di popolo furono cacciati allora ch'io. » La détestation profonde des guelfes noirs responsables de son exil ressort derrière l'adjectif « perfide » qui leur est associé. Il associe aussi l'épithète « tyran » au chef de la faction guelfe, Charles d'Anjou, alors que, d'après la critique, le champ lexical de la tyrannie était censé être plutôt employé par les guelfes pour dénoncer l'autorité de l'empereur et de ses vicaires. Donc ce qu'on peut dire, en tout cas, à la lecture de cet auteur du moins, qui était Gibelin, c'est que les réseaux sémantiques guelfes ou Gibelin ne semblent ni fixés ni très hermétiques. Ce qui compte avant tout pour Neri degli Strinati, c'est de distinguer à l'attention de ses descendants, entre les bons et les mauvais, ceux qui ont porté atteinte ou non au stato de la famille en causant leur exil. Les termes guelfes et gibelins semblent ainsi avoir, à l'origine, été utiles aux chefs de famille florentins pour cartographier le corps politique et social de Florence. Les passages que Lapo da Castiglionchio consacre dans son épître, à partir de la Cronica de Villani notamment, à la description des factions guelfes et gibelines du XIIIe siècle, est un autre exemple de cet usage des termes. On constate dans cette cartographie, qui est très longue et donc que je vous épargne, que la répartition des familles dans l'un ou l'autre camp correspond aussi à des rivalités et des luttes d'influence locale, que Lapo da Castiglionchio d'ailleurs relève parfois pour ce qu'elles sont. En disant, voilà, telle famille est divisée en deux, il y en a une branche qui est guelfe, l'autre qui est gibeline, mais c'est parce qu'ils ne s'entendent pas depuis 200 ans. Je résume mal Lapo da Castiglionchio. Au XIIIe siècle, et durant la première moitié du XIVe siècle, donc, les auteurs utilisaient les termes guelfes et gibelins avant tout pour décrire le panorama politique à leurs descendants, sans qu'ils y associent un contenu théorique plus élaboré. Guelfes et gibelins étaient synonymes, selon l'allégeance de la famille, d'amis ou d'ennemis, de bons ou de mauvais. Mais il est cependant frappant de constater qu'avant 1360, fort peu d'auteurs utilisent ces termes. Si, dans notre imaginaire, il s'agissait de coordonnées fondamentales de la vie publique de l'époque, elles n'apparaissaient manifestement pas comme telles aux yeux des auteurs contemporains. Ainsi, parmi les 23 auteurs qui écrivent au moins une note sur les années 1200-1343, seuls 8 utilisent au moins une fois le terme « guelf » ou « gibelin ». C'est ce que montre donc ce schéma, l'emploi de ces termes en référence donc aux années 1249-1363. Et parmi les auteurs de ces quelques occurrences, les écrivains largement postérieurs aux événements sont surreprésentés. C'est-à-dire que 5 de ces auteurs, 5 des 8, écrivaient leurs livres entre 1360 et 1415. Donc ils font ces références aux guelfes et gibelins des origines dans le cadre d'un flashback en racontant le passé familial. Cette période 1360-1415 ne semble pas anodine puisqu'elle correspond comme je l'ai annoncé en introduction, à un âge d'or du guelfisme à Florence. Comme nous allons le voir, cette seconde phase d'actualité du guelfisme à Florence correspond à une période faste pour le parti guelf et pour l'organisation qui représentait les intérêts du parti guelf dans la cité depuis le XIIIe siècle, qui s'appelait la Parte Guelf. Né au XIIIe siècle avec une fonction militaire pour défendre la cité, la Parte Guelfa eut un rôle de premier plan dans le gouvernement de Florence quand les gibelins furent chassés en 1267 jusqu'à ce que la pacification du cardinal Latino en 1280 conduise au retour des gibelins et à l'apaisement des tensions entre les deux factions. Donc suite à cela, la Parte Guelfa n'eut plus vraiment de rôle politique directement et sa puissance reposa essentiellement sur son exploitation des biens qui avaient été confisqués aux gibelins, dont elle se servait pour financer des prêts à la commune et aux corporations de métiers florentines. Cependant, au fil des décennies, la Parte réussit à nouveau à s'imposer comme arbitre et comme participante à part entière du jeu politique, et cela en se posant comme garante de l'orthodoxie politique guelfe de la cité. D'éléments structurants permettant de penser et de formaliser la conflictualité dans et hors de la cité, le guelfisme devint progressivement une arme politique à part entière qui s'incarna dans la munire. Cette pratique, instaurée en 1357, consistait à avertir officiellement des individus soupçonnés de gibellinisme qu'ils faisaient l'objet d'une enquête de la part de la Parte Guelfa, en leur enjoignant aussi à ce titre de n'accepter aucun office public. Aux mains des capitaines de la Parte Guelfa, la munire devint un puissant outil de pression puisqu'il leur permettait d'exclure de facto du paysage politique les individus et les familles qu'ils voulaient, en les accusant tout simplement de ne pas être guelfes. Or, dans notre corpus, les premières occurrences se rapportant à la Parte Guelfa coïncident justement avec la création de la munire. C'est-à-dire qu'avant la création de cet outil, voué à influer sur la politique intérieure de la cité, l'action de la Parte Guelfa en tant que telle n'avait pas été jugée digne d'intérêt par les auteurs de livres de famille. Mais à partir du moment où la Parte joue un rôle dans la définition du personnel politique florentin, alors là, oui, l'engouement des chefs de famille est manifeste. À partir des années 1360, les familles prirent ainsi l'habitude de se défendre d'éventuelles accusations de gibellinisme en écrivant dans leurs livres ce qu'il fallait pour attester de leur guelfisme. Mais à la suite des événements des années 1370, être guelf devint un élément incontournable de l'identité des familles et de la cité. Nous allons voir comment. Ce phénomène de cristallisation des discours autour de la notion de guelfisme commença avec la guerre des Huit Saints, qui se déroula de 1375 à 1378 et marqua la fin de l'alliance historique entre la commune de Florence et l'Église. Jusqu'à présent, Florence avait été la fidèle alliée de l'Église, mais là, comme cette dernière cherchait à étendre ses territoires au détriment de ses voisines, dont Florence, le conflit éclata. À ce moment-là, se dire guelf avait un sens éminemment politique et polémique dans la mesure où il s'agissait de s'opposer complètement aux décisions prises par le groupe qui gouvernait la cité, donc les Huit Saints qui menaient cette guerre. Pour autant, bon là j'ouvre une petite parenthèse, il convient de remarquer que même chez des auteurs qui étaient alors on ne peut plus guelf et extrêmement liés au parti donc guelf, cette position de soutien de l'Église et de refus de la guerre des Huit Saints ne relevait pas non plus d'une fidélité absolue au pape, ni d'une théorisation d'un rôle suprême de la papauté dans la péninsule italienne. On témoigne, à titre d'exemple, le compte-rendu que Guccio Benvenuti dei Nobili fait de son ambassade au pape 1379, donc peu après la fin de la guerre. E questo papa è di tanta coscienza che quasi persona non aveva cosa che gli domandasse ed etiam Dio i cardinali non impetravano nulla per altri che non gli dicesse che ne guadagni e non gliel voleva fare. Ed era tanto la corte che poche persone l'amavano ed egli si guardava tanto di non peccare per ristretta coscienza che tutte le supplicazioni voleva ricevere egli e segnarle egli e niuna ne commetteva a niuno cardinale e per questo modo vivea e nel vero io, Guccio Cavaliere, il tengo per un santo uomo. Ma veramente a me non pare si fatti uomini bisognasse al papato. Anzi, bisognerebbe uomini magni e larghi e questi tali si fanno amare ai cardinali e ai mercatanti e a ogni maniera di gente. Donc, cet auteur, bon, je ne le développe pas ici, a fait de l'identité guelfe de sa famille un axe structurant de son livre et de son action dans la cité. Mais on constate ici que, clairement, que son guelfisme ne se présente pas comme un philopapisme béat, mais au contraire sous un jour profondément pragmatique, ancré dans les rapports de force de la péninsule. Donc je referme la parenthèse, mais c'était pour vous dire que, y compris les guelfes du parti guelfe pendant la guerre des 800, ne sont pas des fans absolus et réfléchis du pape. Voilà. Après une première crispation autour de la notion de guelfisme au moment de la guerre des 800, donc à Florence, paradoxalement, ce qui changea radicalement le cours de l'histoire et fit en quelques années du guelfisme une composante essentielle de l'identité florentine, ce fut l'issue de ce que les historiens modernes ont appelé « tumulte des Ciompi ». Rien à voir, a priori, me direz-vous, entre les guelfes et le tumulte des Ciompi. Pourtant si, car pour les auteurs de livres de famille, il s'agit alors bien moins d'une révolution d'ouvriers de la laine que d'une nouvelle aventure des guelfes. Reprenons un peu le fil de l'histoire. Le 18 juin 1378, l'ammonizione de deux des 12 bonshommes, l'un des collèges de l'exécutif florentin, provoqua l'indignation populaire et le gonfalonier de justice, Salvestro dei Medici, en profita pour faire voter une loi visant à renforcer les ordonnances de justice qui régissaient le contrôle des manias. Ces mesures visaient à réduire le pouvoir de la parte guelfa en déclarant mania au besoin ses chefs. Sauf que la mise en application des ordonnances de justice traîna, ce qui déclencha un second soulèvement le 22 juin 1378, durant lequel les demeures de leaders de la parte guelfa furent incendiées. Et ensuite, dans les jours qui suivirent, cependant, la commission extraordinaire chargée de gérer la situation réussit à imposer un relatif retour au calme. Le 24 juin, plusieurs membres actifs de la parte guelfa furent déclarés mania et certains furent bannis de la cité, tandis que de nombreux ammoniti retrouvaient leurs droits politiques. Donc pour les auteurs de livres de famille contemporains des faits, mais spectateurs, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas impliqués directement dans les événements, rien d'extraordinaire. Selon Leonardo Salimbeni, il ne s'agit là que d'un des grondements typiques de la vie politique florentine. Pour Nado da Montecatini, il ne s'agit d'ailleurs que d'un quasi-soulèvement. Et nos auteurs notent le retour au calme de la cité. Ils notent aussi, en fidèle sismographe de la vie florentine, ce qui advint au fil des mois qui suivirent. En effet, courant juillet, les ouvriers non qualifiés de la laine, ceux qu'on appelle les Ciompi, qui avaient participé au précédent soulèvement, virent dans ce moment de reconfiguration des équilibres politiques l'occasion d'améliorer leur sort et élaborèrent un programme de réforme en prévoyant un nouveau soulèvement pour le porter. La seigneurie ayant eu vent de l'affaire, elle fit arrêter leurs représentants, ce qui entraîna le tumulte, proprement dit, du 20-21 juillet. Lors de ce tumulte, la demeure du gonfalonier de justice fut incendiée, de même que celle de plusieurs grands léniers. Les Ciompi adoubèrent également, à ce moment-là, 67 chevaliers, au nom du Popolo Minuto, et élurent des représentants. Le lendemain, un nouveau gouvernement fut constitué et un train de mesures fut voté. Fin août, les Ciompi présentèrent une nouvelle pétition à la seigneurie, tandis qu'ils se réunissaient en nombre sur la place communale. La seigneurie refusa leur pétition et les Ciompi furent écrasés militairement et leur arte dissoute peu après. Pendant ce que l'on appela le gouvernement des Arti, le pouvoir continua un temps à être réparti plus équitablement entre les Arti Maggiori et les Arti Minori de Florence, tandis que les membres actifs de la Parte Guelfa, bannis en juin et en juillet, ourdissaient divers complots et campagnes pendant les années qui suivirent, pour revenir à Florence en faisant notamment alliance parfois avec les Ciompi qui avaient fui la cité, jusqu'à ce que les Guelfes parvinrent à revenir à Florence au printemps 1382. Tandis que les Ciompi, eux, n'y parvinrent jamais vraiment, les mouvements continuent de loin en loin, mais sans qu'ils reviennent sur le devant de la scène. Pour les auteurs spectateurs des événements, donc, il s'agit de trois années et demie, riches en rebondissements et en personnages principaux. Or, il en va tout autrement des récits élaborés par les acteurs des événements, en particulier ceux qui étaient actifs dans la Parte Guelfa. Ceux-ci, en effet, occultent complètement le rôle révolutionnaire des Ciompi, qui a tant passionné la critique, pour faire de ces événements rien de plus ni de moins qu'une nouvelle aventure des Guelfes de Florence. Parmi eux, Luigi Guicciardini, gonfalonier de justice en juillet 1378, et membre actif de la Parte Guelfa, qui s'attache dans son livre à défendre son action personnelle en utilisant d'emblée et massivement le couple antagoniste Guelfi Ghibellini pour lire la situation et surtout la décrire à ses descendants au cas où ils auraient besoin de se défendre. Puisque à l'époque, quand vous aviez des ennuis avec la justice, surtout si c'était de gros ennuis, la peine pouvait s'étendre à toute la famille. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement le responsable, mais les enfants, les parents, les cousins pouvaient terminer en prison, voire plus mal encore. Donc voilà comment Luigi Guicciardini raconte les faits que je viens de vous présenter. Vous allez voir, c'est très différent et la clé de lecture guelfe est particulièrement visible. Donc, pour ceux qui aiment la langue ancienne, vous allez être servis. Les gérondifs, la phrase à rallonge, tout est là. Ricordanza sia che essendo io Luigi di Messere Piero Guicciardini tratto e entrato all'ufficio del gonfaloniere della giustizia del popolo e del comune di Firenze in calendi luglio anni 1378 e trovando tutta la terra seragliata e ad arme però che salvestro di Messere alla mano dei medici il quale era stato gonfaloniere 2 mesi passati per fattura dei ghibellini ammuniti e per l'ufficio degli 8 cittadini della balia, aveva fatti molti ordini contro alla parte guelfa e posto gli ordini della giustizia ai grandi e ai gentili uomini della città di Firenze e fatto ardere più e più case e palaggi a certi cittadini guelfi e partefici della parte guelfa e i detti partefici privati d'uffici e chi in un modo e chi in un altro e mandato tutta la città di Firenze a fuoco e a ruberia. E entrando noi nel detto ufficio del priorato nel detto calendi luglio 1378 e volendo certi malefici ghibellini ammuniti e loro seguaci guelfi traditori e i detti 8 della balia che per lo detto nostro ufficio e del priorato e per i nostri collegi si procedesse contro i detti cittadini e partefici guelfi rigidamente, in confinarli e in isbandelli al di fuori della città di Firenze, e volendo che per lo nostro ufficio si facessero certi ordini contro la parte guelfa in disfalla affatto, e io, Luigi, ponendomi al contrario e volendo sostenere che ciò non si facesse, i detti ghibellini ammoniti e i detti cinque cittadini degli otto della guerra fecero e ordinarono che i pettinatori e tessitori e scardassieri e ogni altro battilana della città di Firenze dovessero, martedì di 20 di luglio detto, levare uno romore e ardere certe famiglie guelfe di Firenze. E il giovedì mattina seguente ci cacciarono tutti di Palazzo e della Signoria e fecero altri priori e gonfaloniere, in danno e in vergogna dei guelfi di Firenze. Donc la distance entre sa présentation des événements et le cours historique de ces faits que je vous ai rappelés est flagrante, de même que l'abondance d'occurrences des termes guelfes et gibelins. Selon Guicciardini, il est clair que les Ciompi ont été manipulés et que l'ensemble des événements auraient été pensés pour porter atteinte aux guelfes. C'est une opération que l'on retrouve dans bien d'autres récits d'auteurs de cette période, que je vous épargne, mais qui prend encore davantage d'ampleur dans les récits élaborés dans les années 1380 et 1390, soit après la chute du gouvernement des Arti et après le retour de l'oligarchie guelfe à la tête du gouvernement florentin. Car non seulement ceux-ci prirent des mesures de réhabilitation officielles des guelfes bannis, mais ils cherchèrent également à construire une mémoire guelfe des événements par leur écriture privée et par une action symbolique qui mêlait étroitement l'identité des familles à celle de la cité. Du côté de l'action symbolique, on constate que les chevaliers que les Ciompi avaient adoubés furent réadoubés successivement par le gouvernement des Arti, puis par le Stato dei Guelfi, comme l'appellent certains contemporains. Ce qui eut pour effet de transférer d'un pouvoir à l'autre la charge symbolique du titre et l'allégeance des individus. J'insiste sur ce point car la figure du chevalier de la commune se présente comme un trait d'union entre les familles et la cité. Pour les familles, compter un ou plusieurs chevaliers était une source d'honneur symbolique, mais aussi très concret. Les auteurs font donc une place importante à ces informations dans leurs livres. Avoir ou avoir eu des chevaliers parmi ses ancêtres est un élément prisé de l'identité familiale, car il apporte beaucoup au statut social de celle-ci. Pour la commune, de l'autre côté, les chevaliers étaient également de précieuses ressources, dans la mesure où les personnes ainsi adoubées étaient étroitement liées à la cité. Elles avaient vocation à la défendre, bien sûr, mais aussi à la représenter vis-à-vis des puissances extérieures. Toutes les ambassades florentines comptaient un chevalier. Adouber quelqu'un, c'était non seulement s'assurer de son indéfectible loyauté, mais aussi absorber en partie son aura personnelle dans la cité, en faire une composante de l'image que celle-ci donnait à avoir dans et hors de ses murs. En faisant des chevaliers des Ciompi, des chevaliers de la catholique et très chrétienne parte guelfa, les oligarques, de retour au pouvoir en 1382, accomplirent bien plus qu'une opération symbolique, car ce geste touchait à l'identité profonde des familles et de la cité, contribuant à en faire une cité guelfe. Du côté de la construction de la mémoire guelfe des événements dans les écrits privés, on constate parallèlement que les auteurs tendent à cette occasion à relier leur famille à la tradition guelfe historique de la cité. C'est notamment dans ce sens que vont les nombreuses références tardives que j'ai évoquées tout à l'heure aux guelfes des origines. Non seulement certains lignages inscrivent le guelfisme dans le prénom qu'ils donnent à leurs enfants, certains disent « voilà, j'ai appelé mon fils Charles » en référence au chef de la faction guelfe, Charles d'Anjou. Mais, plus généralement, ils ont tendance à guelfiser, excusez-moi le néologisme, leur passé familial. Car en soulignant les éléments guelfes de leur passé, ils relient leur lignage à la tradition politique de la cité, qui est guelfe depuis 1267, ce qui leur permet d'asseoir leur pouvoir dans le présent. Depuis l'instauration de la munire, le caractère guelfe des familles était en effet devenu un critère qui déterminait de fait la possibilité ou non pour les familles d'accéder aux offices communaux. Pour être un citoyen de plein droit à Florence, il fallait donc être guelfe et pouvoir le prouver. Et c'est aussi à ça que servait le livre de famille, quand on disait, bah voilà, dans ma famille, il y a 200 ans, ou il y a 100 ans, il y a 50 ans, telle personne a participé à telle bataille du côté des guelfes. Ou alors, j'ai reçu un document de la part des guelfes qui attestait que mon ancêtre, un tel, était un bon guelfe. Donc, je peux prouver que je suis guelfe. Après le retour des guelfes en 1382, être manifestement guelfe était donc encore plus utile et nécessaire dans la mesure où c'est eux qui tenaient le haut du pavé politique. Donc c'est ainsi que peu à peu, tous les Florentins finirent par se revendiquer du guelfisme. Être guelfe ne fut plus seulement l'apanage de quelques-uns, qui devinrent d'ailleurs aux yeux des autres des archiguelfes, le terme est de Marchione di Campostefani, mais devint un trait de l'identité florentine. Donc on témoigne notamment cette prière que fait Nado da Montecatini au moment du sac d'Arezzo en 1381. À la fin, il dit voilà, Dio aiuti i guelfi di Firenze ed abbatta i ghibellini loro contrari, cioè dei guelfi. L'auteur ressent en effet le besoin de préciser à la fin que gibelin est le contraire de guelf, comme si on pouvait penser que c'était le contraire de florentin. Guelfe ne désigne plus seulement une faction, mais devient un trait distinctif de l'identité de tout Florentin, indépendamment de ses engagements sur la scène politique de la cité. Être guelfe et membre actif de la parte guelfa devinrent ainsi deux choses distinctes, du moins dans les discours des auteurs. Les mots que Giovanni Morelli rédige à partir de 1393 sont un exemple éclairant de cette évolution. Il n'hésite en effet pas à placer le caractère guelfe au cœur de son identité familiale. Selon lui, le nom de famille même de Morelli dériverait de l'appartenance de ses ancêtres au parti des guelfes noirs. Rien à voir avec la couleur de leurs cheveux, non. Pour autant, son guelfisme ne coïncide pas avec celui des membres actifs de la parte guelfa, car non seulement il condamne le fait que les capitaines de la parte usent de la munire contre des personnes guelfes, quand il dit « E intanto discorse che guelfi e buoni cittadini e valenti erano ammuniti tutto giorno. Questo fatto dispiaceva molto al popolo di Firenze. » Pour lui, voilà, en 1378, parmi les condamnés par les archiguelfes, se trouvaient des guelfes. Donc, ce n'était pas bien. Donc, non seulement il condamne cela, mais en plus, il ne lit pas non plus le tumulte des Ciompi comme la geste des guelfes. Cette page-là a été tournée. D'ailleurs, ce n'est pas le seul. Tous les récits du tumulte élaborés à partir des années 1420 confirment la désaffection des Florentins pour la lecture guelfe de ces événements. C'était une lecture qui collait à l'actualité et après ne le fait plus. Plus encore, la clé de lecture guelfe en elle-même disparaît progressivement des livres de famille à partir des années 1410-1420. Mais comment peut-on expliquer ce déclin, alors même que, comme je viens de vous le dire, les familles avaient complètement intégré le caractère guelfe à leur identité? C'est ce qu'on va voir dans un troisième temps, consacré au crépuscule de la parte guelfa et du guelfisme. D'après Ronald de Witt, le déclin du guelfisme n'aurait pas attendu les années 1420. Dans les documents officiels qu'il a étudiés, il aurait quasiment disparu après 1406, et sa survie sporadique serait due à l'attachement archaïque à ce concept des chanceliers Coluccio Salutati et Benedetto Fortini. Pour lui, Si durant le premier quart du XVe siècle, certains auteurs comme Giovanni Morelli ou Gorodati l'utilisent encore comme principe d'interprétation, je cite Witt, ce serait sous la forme d'une adaptation de la carcasse en passe d'être fossilisée, je le cite encore, du guelphisme aux préoccupations de leur temps, c'est-à-dire la réflexion sur la liberté communale et sur le cadre républicain de Florence. Selon Witt, les générations suivantes n'auront plus besoin de faire appel au guelphisme puisqu'ils disposeront de nouveaux concepts, de nouvelles images pour dire le monde politique qui les entoure grâce aux fruits de la réflexion humaniste sur les formes de gouvernement de l'Antiquité notamment. Alors si effectivement le guelphisme n'apparaît plus sous la forme d'une clé de lecture de la vie de la cité dans les livres de famille dans les années 1430, je ne crois pas que l'idée d'une révolution humaniste des schémas de pensée de la population florentine qui aurait été accomplie en moins de deux décennies soit la seule piste qu'il convienne de creuser, car une autre chose changea aussi radicalement la face du paysage florentin à l'époque, à savoir l'ascension des Médicis. Or, ceux-ci s'attaquèrent non seulement à la parte guelfa comme institution, mais aussi par leur discours à la représentation de la configuration politique florentine et aux principes qui organisaient la conflictualité interne de la cité depuis des siècles. Ce qui peut, à mon sens, expliquer aussi la substitution du guelphisme qui s'inscrivait dans cette première démarche par une autre clé de lecture. Jean Brooker écrit qu'au cours du XVe siècle, la parte guelfa, un temps état dans l'état, c'est de Brooker, avait peu à peu perdu de son pouvoir. Si l'on en croit l'Historia de Gorodati, cela était clair aux yeux des Florentins dès les années 1410. L'ufficio dei capitani di parte guelfa è grande d'onoranza, più per memoria delle antiche virtù operate sotto quello segno e con quello segno, che per cose che al di d'oggi abbiano a fare. Solo hanno a ricercare molte rendite e quelle spendere in onore e gloria della detta parte guelfa, donando quello magnifico segno a principi e signori e grandi maestri, i quali in favore e onore di parte guelfa si sono affaticati loro e loro discendenti. Ce processus de déclin amorcé au début du XVe siècle a, depuis Brooker, fait l'objet d'une étude spécifique de la part d'Alison Brown, qui a montré qu'au début du XVe siècle, la parte était plus riche que jamais de biens mobiliers et immobiliers, et qu'une partie de la classe dirigeante s'efforçait de consolider son pouvoir à travers elle. Donc, malgré ce que dit Gorodati, au tout début du XVe siècle, la parte demeurait un lieu et un enjeu de pouvoir, ce que prouve aussi l'intérêt des auteurs de livres de famille pour les élections qui se tenaient à la parte, donc notamment en 1411 et 1413. La puissance que conservait encore la parte au début du XVe siècle tenait beaucoup aussi à son rôle dans le cérémonial citadin. Depuis le XIVe siècle, elle était systématiquement associée aux cérémonies qui avaient trait à l'honneur de Florence, à l'honneur et à l'identité de la cité. À partir du retour des Guelfes, les fastes déployés par la parte, à l'occasion de joutes communales ou des adoubements de chevaliers de la commune, constituait un moyen pour la parte d'affirmer visuellement et symboliquement sa puissance dans la cité. On atteste par exemple le récit que fait Bartolomeo del Corrazza, un marchand de vin de Florence, dans son livre de famille, du rôle joué par les capitaines de la parte guelfa lors de la visite du pape Martin V. I capitani della parte guelfa, in luogo dei signori, presero il freno del cavallo e i cittadini che avevano invitati detti capitani andorono innanzi a pie. Donc voilà un espace, celui du cérémonial citadin, où la parte guelfa, au début du XVe siècle, régnait encore en maîtresse, agissant même en lieu et place des seigneurs, des prieurs, dans les rapports entretenus avec l'Église. Les nombreuses références au rôle cérémoniel de la parte guelfa que l'on trouve dans les livres de famille de l'époque confirment que dans ce domaine, sa puissance n'était en rien diminuée dans les années 1420. Mais aussi, peut-être, que c'était une sphère dans laquelle elle s'était repliée, puisqu'on constate dans le même temps une diminution considérable des occurrences qui se rapportent à la parte guelfa comme lieu de pouvoir. On en parle beaucoup plus alors comme puissance symbolique, organisatrice de cérémonies dans la cité, que comme lieu de pouvoir à part entière. Donc comment expliquer ce recul en termes de pouvoir stricto sensu, alors que, comme nous l'avons vu, l'identité guelfe de Florence faisait désormais partie du patrimoine commun des habitants et qu'il n'y avait, a priori en tout cas, plus de conflits opposant les guelfes aux gibelins à Florence. Donc tout est dans le a priori, car les années 1420 correspondent à la période où les factions albicéennes et médicéennes se disputèrent la prééminence sur Florence. Quel rapport entre les Médicis, les Albizzi et les Guelfes, me direz-vous ? Comme vous l'avez probablement deviné en entendant prononcer le nom d'un certain Salvestro dei Medici en 1378, cette famille ne faisait alors pas partie des membres actifs de la parte guelfa, au contraire. 50 ans plus tard, cette ligne de fracture se retrouve encore dans la composition des factions albicéennes et médicéennes, et les familles des guelfes victorieux dans les années 1380 se retrouvent massivement dans la faction albicéenne, et l'on ne s'étonne donc pas de voir apparaître encore le guelfisme en 1426, comme composante du programme oligarchique défendu par la faction albicéenne. Sauf que, comme vous le savez, ce sont les Médicis qui réussirent à prendre l'ascendant à Florence et qu'afin d'assurer leur domination, ils ne s'attaquèrent pas seulement à la faction adverse, les Albizzi, mais aussi à la parte guelfa, car celle-ci demeurait une menace, pour les raisons que je vous ai expliquées, une menace non négligeable. Pour mettre à mal la parte, la faction médicéenne mit en œuvre jusqu'en 1481 une stratégie reposant sur l'entrisme afin de remodeler l'organisation de l'intérieur. Et parmi les étapes marquantes de ce processus, on peut distinguer le fait que la banque Médicis devint trésorière de la parte en 1463, qu'ils firent passer à la balia de 1466 une décision qui consistait à retirer les capitaines de la parte guelfa de la liste des membres de droit des commissions extraordinaires qu'on appelait balie et qui en temps de crise gouvernaient la cité. Et du côté du pouvoir symbolique de la parte guelfa, dont on a vu qu'il était encore conséquent à l'époque, les attaques remontent à 1459 quand les Médicis commencèrent à imposer des restrictions à la parte en matière de récompense et d'adoubement des chevaliers de la commune. Donc peu à peu, la parte ne fut plus systématiquement la seule autorité à compter pour faire des chevaliers, puisque les nouveaux chevaliers furent systématiquement confirmés par la commune. En 1480, enfin, les Médicis portèrent le coup fatal dans ce domaine à la parte guelfa, puisque le conseil des 70, qui venait d'être créé, fut chargé de la dimension honorifique qui constituait le dernier bastion du pouvoir de la parte guelfa, en adoubant désormais tout seul les chevaliers de la commune. La parte guelfa était alors devenue ce qu'elle allait rester jusqu'au XVIIIe siècle, puisqu'elle a existé jusqu'au XVIIIe siècle, à savoir une institution officielle non plus autonome par rapport au gouvernement de la cité, mais inscrite dans son organigramme et dépendante de la seigneurie. Une institution toujours prestigieuse, mais privée de tout pouvoir financier et de toute indépendance politique. Car entre-temps, de nouveaux acteurs s'étaient imposés à Florence et avec eux, leur discours. Donc il s'agit là d'un élément que je ne développerai pas, puisque je n'ai pas le temps, mais que je vous présente comme point de fuite de cette enquête sur le devenir de la notion de guelfisme du XIIIe au XVe siècle. Les récits privés ayant trait à la vie de la cité, rédigés durant la période médicéenne, montrent en effet que la représentation de la conflictualité communale changea profondément à partir de 1433-1434, c'est-à-dire au moment de l'exil et du retour de Côme de Médicis. Dans un premier temps, le corps politique florentin continua à être représenté sous la forme de deux blocs antagonistes, mais la façon de les définir changea. Jusqu'alors, on avait deux blocs en présence qui disposaient de deux identités distinctes. On pouvait avoir Grandi contre Popolani, Guelfi contre Ghibellini, mais toujours deux blocs dotés de deux identités auxquelles les familles pouvaient non seulement se rattacher, mais qu'elles pouvaient aussi assimiler jusqu'à en faire une composante de leur propre identité. En 1433-1434, un nouveau schéma émerge, organisé cette fois autour d'un seul élément, pour ou contre les Médicis. Les familles durent alors penser et représenter la cité et la composante politique de leur identité à partir d'éléments que cette fois ils ne pouvaient pas complètement intégrer à leur identité. Être profondément popolano ou guelf, c'est possible. Devenir un Médicis, quand on ne l'est pas, ça ne l'est pas. Donc, cela semble avoir donné lieu à une reconfiguration profonde de la vision que les auteurs avaient de la scène politique florentine, dans la mesure où, au fur et à mesure qu'au fil du XVe siècle, la focalisation du regard sur les Médicis se confirmait et se renforçait, les familles commencèrent à se penser différemment, à se penser autour des Médicis. De pivot autour duquel s'articulaient deux blocs antagonistes, pour ou contre les Médicis, la famille Médicis devint progressivement le centre d'une nouvelle image du corps politique florentin, désormais organisée en cercles concentriques autour d'eux. À défaut de devenir des Médicis, quand on était une famille de l'oligarchie, on pouvait espérer se rapprocher des Médicis. Et on a tout un nouveau lexique qui apparaît sur, voilà, justement, être proche, être loin, et non plus être guelf ou gibelin. Le concept de guelf fut ainsi pendant des décennies parfaitement fonctionnel dans le cadre d'une vision du corps politique intrinsèquement conflictuel. Les familles avaient intégré cette dimension conflictuelle et dynamique de la vie politique citadine et n'hésitaient pas à se positionner et à construire leur identité au moyen de ces couples de termes antagonistes qui organisaient et structuraient leur vision de Florence. Mais avec les Médicis, une vision plus statique, organisée autour de leur seule famille, s'est imposée, et la stabilité est devenue l'horizon idéal de l'action politique, remplaçant l'idée de conflictualité normale et tout à fait saine. Et donc le guelfisme n'avait plus sa place dans les discours portés par ces nouveaux acteurs. Donc pour conclure, peut-on dire que guelf et gibelin sont des mots creux? Alors, certainement pas. J'espère, en tout cas, à l'issue de cette présentation, vous en avoir convaincu et vous avoir convaincu qu'il s'agissait de termes structurants de la représentation que les Florentins avaient d'eux-mêmes et de leur cité, au moins de 1260 à 1430. La fonction principale de ces termes était d'ordonner l'espace politique toscan puis florentin autour de deux pôles antagonistes dans le cadre d'une configuration de l'espace politique qui constituait le socle de la pensée politique des Florentins. Pour cette raison, il me semble que l'épaisseur sémantique des termes guelfes et gibelins ne doit pas être sous-estimée. Même si la question des alliances avec le pape et l'empereur ne constituait dès le XIVe siècle, voire dès le XIIIe siècle, vous l'avez vu qu'un arrière-plan. L'envie déçue de certains chercheurs de trouver en ce terme un concept clé qui eût appartenu à une idéologie au contenu et au contour bien défini est peut-être à l'origine de leur tendance à réduire ces termes à de simples étiquettes. Peut-être aurait-il dû se méfier du suffixe en « isme » de guelphisme, qui est une invention de la critique. Les Florentins, eux, n'utilisèrent que l'adjectif et le substantif « guelphe » et son antonyme « gibelin », sans en faire la doctrine ou le système de pensée que le suffixe en « isme » a tendance à amener avec lui. Ces termes leur servaient de prisme au travers duquel lire la cité, mais surtout au travers duquel se dire en son sein, en se plaçant du bon côté de la barrière politique. Car ce qui importe vraiment est, à mon sens, de l'ordre de l'identité des familles en lien avec celle de la cité. Ce qui compte pour les Florentins, quand ils utilisent ce terme, c'est d'être ou de ne pas être guelfe, car se dire guelfe, c'est, et ce toujours plus nettement au fil du XIVe et du XVe siècle, se dire florentin au sens politique, en se rattachant à l'histoire de la cité, et surtout en se présentant ontologiquement comme son rejeton, un rejeton digne de participer à son gouvernement, dans la mesure où il est en parfaite adéquation avec l'identité de la cité. Donc voilà, je suis guelfe, donc je suis florentin, et donc je peux légitimement revendiquer ma participation au gouvernement de la cité. Sauf que les membres des familles de l'oligarchie, qui portaient depuis des décennies cette vision de leur rapport avec la cité, durent reculer face à l'irrésistible ascension des Médicis, qui portaient un autre étendard, le leur, sur la hampe d'un autre discours. Alors, il ne fallut pas bien longtemps pour que la parte Guelfa devienne effectivement une carcasse dorée, voué à décorer le paysage florentin jusqu'au XVIIIe siècle, mais dépourvu de tout pouvoir. De nouveaux acteurs et de nouveaux outils interprétatifs s'étaient entre-temps imposés, et en bon sismographe de la pensée politique florentine, les auteurs de livres de famille ne manquèrent pas d'enregistrer cette mutation. Dès que le terme « guelf » n'eut cette fois vraiment plus de sens, et de sens politique en particulier, alors il disparut effectivement de ces lignes bonnes et utiles. Je vous remercie pour votre attention.